Deuxième temps de notre semaine consacrée à la poésie et à l'histoire. Alors qu'en fin de semaine, à la Maison de la Poésie à Paris se tient une manifestation, les géants, autour de trois grands poètes contemporains de même génération, Juan Gelman, François Cheng et Adonis, le poète syro-libanais qui était notre grand invité d'hier et nous a raconté son rapport à l'histoire du monde arabe. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site www.franceculture.fr pendant 500 jours, la télécharger pendant une semaine et également laisser vos commentaires. Demain, nous réécouterons le documentaire d'Anne Kropotkine et d'Anne Fleury sur le curieux et formidable poète qu'était poète qu'était Armand Robin, mort en 1961 dans des conditions mystérieuses il y a 50 ans. Jeudi, nous nous demanderons quelle était la place des poètes dans le printemps des peuples de 1848. Et aujourd'hui, c'est le souffle de la poésie dans la résistance que nous allons entendre par la voix de Georges-Emmanuel Clancier dans un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Séverine Cassard.
Libération. Est-ce l'anguille ou l'ablette qui fait la loi du vivier? Et depuis quand l'alouette chasse-t-elle l'épervier? L'homme pousse la brouette, la femme lave à l'évier. Sur le ventail, la chouette atteste que vous rêviez.
Fontaine, une source de la résistance poétique.
Il fallait résister sur les deux plans. D'une part, montrer que les écrivains français les plus importants étaient du côté de la résistance patriotique ou politique. Mais je voulais en même temps montrer que le poète n'est pas celui qui rythme l'action, mais il est en avant de l'action, comme l'a dit Rimbaud, n'est-ce pas ? Il faut bien montrer que l'écrivain ne marche pas avec les salauds. Un point, c'est tout.
Georges-Emmanuel Clancier est né le 3 mai 1914, trois mois, jour pour jour, avant la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Poète et romancier, il est aujourd'hui, à 97 ans, le dernier acteur vivant de ce qui fut la poésie de résistance, notamment grâce à son rôle au sein de la revue Fontaine.
L'enfance de ma génération a été marquée par la guerre de 14, c'est-à-dire les pères qui sont au front, beaucoup d'ailleurs sont tués hélas, d'autres sont blessés, gazés comme mon père. Et puis cette phrase qui revient toujours, « Ah tu sais petit, ton père il est sur le front pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre, pour que le monde soit meilleur, plus juste, etc. » Et cela, nous n'en avons pas conscience, mais certainement s'imprime dans notre, au plus profond de nous-mêmes. Et lorsque l'adolescence arrive, pour les poètes, que nous sommes en potentiel, si je puis dire, eh bien, il y a d'abord une sorte d'exaltation de l'adolescence, la découverte de la poésie, disons, moderne au sens large du terme, depuis Nerval, depuis Rimbaud, depuis Mallarmé, Apollinaire, etc., est perçue évidemment comme un surcroît de beauté que contient le monde et que nous pouvons atteindre, et puis aussi comme une promesse qui est faite à l'homme par l'homme. Mais en même temps, les totalitarismes se profilent à l'horizon et menacent. Et c'est vrai que beaucoup de poètes de ma génération avons été marqués notamment par ce coup de tonnerre de la guerre d'Espagne et qui détruit tout ce que nous aimons, que nous admirons. Je me souviens évidemment que découvrir Lorca en espagnol, moi je pouvais le lire en espagnol ou en traduction, ce merveilleux poète, cet amour du monde et de l'être qu'il y avait dans cette poésie, et puis peu de temps après apprendre qu'il a été assassiné, qu'il a été fusillé, ça sonne le glas. Il se trouvait pourtant que des petits groupes de poètes jeunes, qui souvent ne s'étaient jamais rencontrés, ont réagi d'une manière instinctive en fondant des petites revues qui maintenaient, contre vents et marées, l'espoir que l'humain reparaîtrait et que la victoire des fascistes serait un jour abolie. Et c'est ainsi qu'en effet que la petite revue Fontaine m'a beaucoup intéressé à cette époque parce que c'était sa position de cette petite revue fondée par Max-Paul Fouché à Alger.
D'abord, Fontaine devait être une revue de poésie
et d'études poétiques. Puis, la guerre est arrivée et elle est restée une revue de poésie, essentiellement, mais elle est devenue aussi une revue de combat. Par la poésie, il s'agissait de dénoncer l'envahisseur, de faire acte de résistance. On dénonçait l'ennemi, et on le dénonçait justement au nom de cette vérité poétique intérieure qui se fonde sur le contraire du mensonge et sur l'amour de la liberté.
Oui, même pour Max Paul, mais je crois que c'est vrai. Elle était la première, si vous voulez, aussi nettement à le faire. Et elle paraissait donc, cette revue avait été fondée par un autre poète qui s'appelait Charles Outran, pied noir, lui aussi vivant en Algérie. Mais il avait fondé sa revue sous le titre de Mitra. Et puis, il y avait eu deux numéros. Et puis, Charles Outran avait été mobilisé et dès le début fait prisonnier de guerre en Allemagne. Et Max Paul avait pris le relais en débaptisant Mitra, ce qui fait que Fontaine, si je ne me trompe, a démarré avec le numéro 3. C'était un tout petit cahier, mais le ton m'en paraissait neuf, m'en paraissait nouveau. Il prenait conscience, en fait, de la poésie en guerre. Mais le tournant, à mon sens, essentiel, pris par Fontaine et qui devait faire de Fontaine ce qu'elle est devenue vraiment, ça a été le numéro 10, paru dans l'été 40. Max Paul, je pense que c'est parfaitement vrai, n'avait pas entendu l'appel du 18 juin de De Gaulle, mais avait de lui-même écrit un texte, un manifeste, et qui s'intitulait le texte « Nous ne sommes pas vaincus ». Alors, vous comprenez, lire ce texte-là, « Nous ne sommes pas vaincus », le lire dans l'été 40, ça avait quelque chose de provoquant, d'insolite, de scandaleux, de peut-être ridicule, ou peut-être des bien-pensants, mais qui enthousiasmait beaucoup de poètes. Un des phénomènes aussi qui ont marqué cette époque, c'est que d'habitude, en général, une génération démarre en s'opposant aux aînés. Et nos aînés, c'était les poètes surréalistes, par exemple, enfin, en gros. Eh bien, là, il s'est trouvé que des poètes déjà pour nous très célèbres, comme Pierre-Jean Jouve, comme Aragon, comme Éluard, venaient tout naturellement vers les petites revues et vers les tout jeunes poètes que nous étions, parce qu'il n'y avait pas cette barrière entre les générations, il y avait au contraire une espèce de communion, dirais-je même, au nom de la poésie. Et c'est ça, je crois que ça caractérise bien l'époque. Le jour. Pour Max-Paul Fouché. Pourtant, le sel saura poindre des pleurs, à vivre rien, à chanter moins encore. Et le vent peut fouiller des corridors, travailler la haute boue de la mort, sans que monte à lui, bras levés, un corps. Pourtant, le sel s'ouvrira chaud de fleurs, à vivre rien, pour l'alphabet de chair. Que balbutieraient les feux de la terre lorsque le poids d'une femme et la mère reprochent de ne pas croire au désert. Pourtant le sel poussera de ses fleurs l'avènement de soleil et de vent. Pourtant par ses lames d'un rouge élan, le sel ensevelira le désert. Nul ne saura fuir ni rompre la fête simple, nous voudra dire nos défaites, ni de quel monstre parler nos péchés. Le sel aura sanctifié de ses heures nos défrichements, cette veille à mort, enivrant de poussière les meilleurs. Le sel ensevelira le désert. Février 1940. C'est bizarre, hein, Il est à la fois un poème d'espoir et pourtant un poème de presque d'annonce de la défaite, comme si c'était de la pressentie, si vous voulez. Pressentiment de la défaite de tout ce que nous aimions et de tout ce qui nous faisait vivre jusqu'alors.
Pierre Segers.
L'attentisme de la population fait place petit à petit à une position plus dure. Les Français, en général, commencent à se rendre compte que Pétain est une façade et que derrière, ce sont les nazis, ce sont les hitlériens qui petit à petit tente de prendre les leviers de commande de la France et notamment les leviers de commande de l'esprit français. Dans ces conditions, les poètes, les écrivains, qui sont, si vous voulez, les haut-parleurs même du silence, les haut-parleurs d'une population qui se croit encore bâillonnée, eh bien, ces haut-parleurs se mettent petit à petit à chuchoter et à parler de plus en plus haut.
Max-Paul Fouché.
Ce n'était pas la poésie en soi qui s'attirait une telle faveur, mais bien davantage ce qu'elle exprimait, son message, et grâce au détour de son expression, à la prétérition qu'est sa forme même, la poésie jouissait de ce privilège sur la prose qu'elle pouvait exprimer, imprimer, ce que la prose aurait trop explicité aux yeux des censeurs. Par une grâce du ciel, nos censeurs n'ont jamais rien compris à la poésie, à l'expression poétique. Ainsi la poésie a-t-elle pu exprimer ce que tout un peuple pensait. Elle a été la conscience de la France opprimée par des chefs au service de l'Allemagne, par un gouvernement aux ordres du fascisme international. Et c'est pour toutes ces raisons, par le retour de la poésie au rôle de messagère, que la période qui suivit l'armistice peut être, à bon droit, considérée comme un moment remarquable de l'histoire de la poésie française.
Max-Paul avait vraiment un ton à lui, une expression qui m'enthousiasme, mais Max-Paul était est-ce qu'on peut dire, de formation chrétienne ou socialiste en même temps. Et il écrivait dans la revue du personnalisme Esprit, fondée par Emmanuel Mounier. Et je crois que c'est là que j'avais lu son beau long poème douloureux sur la prise de Barcelone. Et par ailleurs, il me lisait, il lisait mes poèmes que moi je publiais dans les Cahiers du Sud. Et c'est pour ça que Max-Paul, à ce moment-là, a demandé à Pierre Emmanuel, notamment, et à moi-même, d'entrer dans le comité de rédaction de Fontaine. En ce qui me concerne, aussi, si je voulais bien, et j'acceptais volontiers, d'être titulaire de la chronique régulière des livres de poésie. C'était, vous savez, un comité d'amitié.
J'ai le sentiment, pendant l'occupation, qu'il y avait une voie, un chemin, ce sentiment de la vie commune,
Claude Roy.
Du travail commun, de la voie commune dans laquelle nous engagions. Quand je suis revenu de captivité, j'ai trouvé des amis, des camarades, des frères, et une poésie qui était là, qui était une poésie collective, qui c'était merveilleux, se dire... tiens, ce matin, j'ai reçu un poème de Georges-Emmanuel Clancier. Ce matin, Max-Paul m'a envoyé un texte d'Algérie qui est magnifique. C'était vraiment très, très beau.
Dans cette époque qui était noire et qui ne portait pas beaucoup d'occasion de se réjouir, je garde quand même un souvenir heureux. Je pense que les autres poètes faisaient de même. Qui ont ces souvenirs, qui est celui des rencontres, dites rencontres de Lourmarin, en septembre 1941, qui avaient été organisées par Emmanuel Mounier et puis Pierre Schaeffer, et qui réunissaient dans le château de Lourmarin des jeunes poètes, des jeunes musiciens aussi, pour 2 ou 3 journées. Et cela a permis à des gens comme Pierre-Emmanuel, comme Max-Paul Fouché, comme Pierre Segers, comme moi-même, comme Loïs Masson, de se rencontrer pour la première fois et de partager dans l'enthousiasme et parfois la naïveté de la jeunesse nos credos et nos espoirs et nos révoltes.
C'était pour moi que la poésie redevenait une sorte de poste de commandement.
Pierre Segers.
Il y avait cette nécessité de ne pas se sentir parcellisé, de ne pas se sentir atomisé dans une histoire que personne ne comprenait à l'époque.
Pierre-Emmanuel, Les Dents Serrées, 1943.
Je hais. Ne me demandez pas ce que je hais. Il y a des mondes de mutisme entre les hommes et le ciel veule sur l'abîme et le mépris des morts. Il y a des mots entrechoqués, des lèvres sans visage, se parjurant dans les ténèbres. Il y a l'air prostitué au mensonge et la voix souillant jusqu'au secret de l'âme. Mais il y a le feu sanglant, la soif rageuse d'être libre. Il y a des millions de sourds, les dents serrées. Il y a le sang qui commence à peine à couler. Il y a la haine. Et c'est assez pour espérer.
bien, ces poètes, je crois, se sentent maintenant unis et rassemblés. Ils ont une tribune qui est Poésie 42. Ils ont une autre publication en France même qui est Confluence, qui vient de commencer à paraître. Il y a à Alger, avant le novembre 42, date de la libération de l'Afrique du Nord, il y a Max-Paul Fouchet avec la revue Fontaine. Enfin, il y a trois publications, et quelques autres, mais peut-être un peu moins importantes, qui reçoivent leurs textes, leurs poèmes, leurs œuvres, et tout cela est publié, et en filigrane, ou directement, dans la clandestinité. Alors cette fois, on s'aperçoit que les poètes ont quelque chose à dire et le disent. Parmi eux, il y a bien entendu Aragon, qui est l'un des premiers et l'un des chefs de file.
Je m'étais juré que si mon pays devait être entraîné dans une nouvelle guerre de ce caractère, au moins quelqu'un dans mon pays élèverait la voix contre. Et la forme que ma poésie a pris était une forme destinée à être entendue par un plus grand nombre de gens possible. En essayant de baser mon expression sur les formes profondément nationales de la poésie française, cela a servi à quelque chose, car de cette poésie qui commence dès la drôle de guerre est née, je peux le dire, sans me vanter particulièrement, ce qu'on a appelé ensuite la poésie de la résistance. Et effectivement, je suis arrivé à surprendre le pouvoir public de Vichy, qui ne croyait pas que des vers patriotiques pouvaient être une arme pour lui dangereuse, et qui ont fait que j'ai pu, jusqu'à l'automne de 1942, vivre légalement, quoique lié au mouvement de résistance.
La guerre, l'événement, a fait naître, voire renaître des poètes. Vous parliez d'Aragon, qui ne composait plus de poèmes depuis le début des années 30, revient à la poésie au moment de la guerre. On parlait de Pierre-Emmanuel. C'est tout un certain nombre de poètes qui se révèlent au moment de l'occupation.
Pierre-Emmanuel ne revenait pas à la poésie. Il venait à la poésie, puisqu'il est... Et il avait le même âge que moi, mais il est vrai que dans la catastrophe qui nous atteignait, semblerait avec Emmanuel avoir trouvé sa voie, peut-être la plus profonde. Mais Aragon rejoint très rapidement les petites revues donc, dont nous avons parlé tout à l'heure, Poésie 40, Fontaine qui publie presque à chaque numéro soit un texte d'Aragon où Aragon explique ses nouvelles théories sur la poésie, sur le retour à la poésie orale, sur le retour au souvenir de la poésie des troubadours, de Chrétien de Troyes. Et Aragon ne fait pas partie officiellement des comités de direction de revue, mais joue un rôle, en effet, j'ai vu des lettres de lui à Max Paul, à Segers, à Confluence, donnant des conseils, critiquant. Il a été certainement au centre de l'effervescence poétique de l'époque.
J'écris contre le vent majeur et n'en déplaise à ceux-là qui ne sont que des voiles gonflées. Plus fort souffle ce vent et plus rouge est la braise.
C'est un phénomène très intéressant et très curieux parce que un poème, je crois, communiqué par Paulhan, qu'il avait appris par cœur, un poème d'Aragon, qui je trouve beau, mais que je trouve tellement néoclassique que je reste un peu perplexe, ne comprenant pas bien le cheminement de l'ex-surréaliste et de l'ex-militant communiste.
J'écris comme je veux, et tant pis pour les sourds, si chanter leur paraît mentir à mauvais jeu.
C'est vrai que la poésie a évolué à ce moment-là. D'abord, elle s'est faite, je crois, plus orale, avec des poèmes assez chantants, mais très mélodieux, très rimés, très rythmés. Le fait aussi d'écouter avec passion chaque soir les voix qui venaient de Londres, si vous voulez, l'importance de nouveau donnée à l'oral et à la voix a incité, même si ce n'était pas conscient au début, les poètes à redonner peut-être davantage le sens du chant et de revenir à la source de la poésie qui longtemps a été chantée même, et parlée et dite. Et ça, ça a marqué, je crois, un changement dans la poésie française.
Ce soir, au cours du programme, les Français parlent aux Français.
BBC, 1943.
Voici un poème qui nous est venu de France depuis l'occupation. Richard II, 40. Extrait du recueil Le Crève-Cœur de Louis Aragon. Ma patrie est comme une barque qu'abandonnèrent ses haleurs. Et je ressemble à ce monarque.
Et je ressemble à ce monarque.
Plus malheureux que le malheur. Qui restait roi de ses douleurs.
Qui restait roi de ses douleurs.
Vivre n'est plus qu'un stratagème. Le vent s'est mal séché les plaies. Il faut haïr tout ce que j'aime. Ce que je n'ai plus, donnez-le. Je reste roi de mes douleurs.
J'avais des discussions avec un poète que j'aimais bien, qui était très catholique, qui s'appelait Luc Estan, et lui défendait beaucoup le rythme régulier, la rime, ce qui, moi, me chiffonnait un peu. J'ai toujours joué avec le... autour du rythme régulier, mais que je cassais des rimes qui étaient cachées. Et Christian me disait, mais qu'un poème bien rimé, bien rythmé, se retient plus facilement que le poème en effet en vers libre.
Il est un temps pour la souffrance. Quand Jeanne vint à vos couleurs, coupez en morceaux la France. Le jour avait cette pâleur. Je reste roi de mes douleurs.
Dans ce langage souvent codé des poètes de clandestins, oui. Pierre Segers dit « Les Français avaient appris à lire en filigrane ».
Eh bien oui, parce que remarquez, c'est souvent ce que l'on fait aux époques de censure, si vous voulez... Aragon, lorsqu'il parle de Jeanne d'Arc et de son combat, en fait, le lecteur comprend qu'il fait en fait allusion au combat de l'époque pendant laquelle il lit ce poème. Alors, peut-être que les lecteurs ont été attirés par le langage codé et le décodage de ce langage, mais je crois notamment, si je parcours des numéros de Fontaine, après coup, il y a souvent des poèmes codés, mais il y a aussi beaucoup de poèmes non codés. Et je crois que le besoin de lire des choses qui étaient des contre-messages à la propagande, notamment vichiste, et aux mensonges dans lesquels on vivait, cela attirait peut-être le lecteur, mais le lecteur ensuite aimait réellement la poésie pour elle-même et par elle-même.
Il faut rappeler, Georges-Emmanuel Clancier, que la vie intellectuelle durant l'occupation est très dense. Hein. On recense 85 revues légales ou clandestines qui animent la vie littéraire sous l'occupation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les poètes de la Résistance et leurs revues donc, parviennent à réconcilier la poésie et leurs lecteurs à ce moment-là, alors que la poésie elle-même est quand même un petit peu délaissée depuis la fin du XIXe siècle au profit du roman.
Oui. C'est un regain dont je suis heureux dans ces temps de malheur, mais en même temps qui m'afflige aussi un peu parce que spontanément, j'ai toujours associé l'amour de la poésie à l'amour de la vie, et je dois bien constater qu'en France en tout cas, mais même ailleurs, c'est au contraire au moment de douleur et au moment d'affliction, de désarroi, de désespoir, que le public veut bien de nouveau s'intéresser à la poésie. C'est vrai aussi par ailleurs que, bon, on était privé de tout, on était plutôt maigre quant à la nourriture terrestre, et c'est une sorte de réflexe peut-être à ce moment-là que lorsque la nourriture terrestre vient à manquer, eh bien on se tourne vers ce qui semble une sorte de garantie de l'espoir et de l'espérance, c'est peut-être l'apanage de la poésie.
Vous écrivez « La poésie ne pouvait se défendre que selon ses lois propres, c'est-à-dire en chantant sous les coups. Il n'y avait plus d'un côté la poésie, de l'autre l'événement, en fait la victoire de l'hitlérisme portée dans son cortège de mise à mort, celle de la poésie. »
Oui, mais moi je continue à m'étonner toujours, à m'indigner, mais à m'étonner, que des écrivains de qualité, des prosateurs de talent, comme Chardonne, comme Drieu La Rochelle, comme Jouandeau, enfin, viscéralement, n'aient pas rejeté l'esprit de destruction et de mort totale qui était l'hitlérisme, et qui commençait à brûler les livres avant de brûler les gens. Et comment, en effet, un poète qui est habité par les poèmes à venir et par cette exigence envers le langage, mais envers la vie, comment les poètes auraient-ils pu ne pas être horrifiés et vomir, en effet, tout ce qui était la négation même de l'espoir qu'ils portaient en eux-mêmes? Moi, je n'ai pas connu, je ne vois pas de vrai poète qui ait collaboré, entre guillemets.
Se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis.
Pierre Segers.
En octobre 1941, nous avons été tous traumatisés par la fusillade des otages de Chateaubriand. Et sans le savoir en même temps que moi, Pierre-Emmanuel a écrit et fait passer en Suisse un poème sur les otages de Chateaubriand. Les poètes étaient absolument sur l'événement et répondaient immédiatement par leurs paroles et par leurs défis.
Ça doit être pour moi en 1941. Max Paul a créé un numéro spécial de Fontaine qui s'appelait de la poésie comme exercice spirituel et qui a été assez violemment attaqué par les autres revues et notamment au nom même de la résistance d'une certaine manière, mais qui montrait tout à fait la voix moi que j'aimais dans Fontaine, la voix E et la voix X. Refeuilletant ces jours-ci des vieux numéros de Fontaine, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt un assez long article d'un très remarquable critique qui faisait partie de l'équipe essentielle de Fontaine, qui s'appelait Henri L, et qui était en fait juif et qui s'appelait Henri Lasserie. Et Henri L, donc, dans cet article, prenait feu et flamme pour le numéro de poésie, la poésie comme exercice spirituel, et terminait son article en me citant longuement, en citant un article que moi j'avais fait dans Le Figaro littéraire, et qui était une réponse à Pierre Segers. Car Segers, justement, défendant la poésie plus engagée, une poésie qu'il appelait à hauteur d'homme, ne trouvait pas que la poésie n'avait pas, en ces temps-là, plané à des altitudes trop hautes, ou bien s'enfoncer trop profondément dans les mystères de l'homme. Et Henri L disait, mais qu'est-ce qu'il entend par hauteur d'homme? À quelle hauteur place-t-il l'homme? Est-ce que c'est une hauteur moyenne ou une hauteur insuffisante? Et donc, moi, j'avais fait un texte dans Figaro littéraire défendant que c'est la poésie elle-même, la poésie pure, la poésie digne de ce nom, qui porte en elle-même l'essentiel du meilleur de l'homme. C'était ça, je crois, ma position, et c'était la position très souvent de Fontaine. Je repense à ce garçon que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Louis Masson, qui était un poète délicieux, débarquant en France alors qu'il est citoyen anglais le jour de la déclaration de la guerre. Puis ensuite, il se trouve doublement menacé par les Allemands, et comme poète anti-allemand, et comme citoyen anglais. Et Louis Masson, catholique, très engagé aussi, qui écrit des poèmes de circonstance, aurait dit peut-être Benjamin Perret, et que je rencontre à Paris, peut-être en 1946 ou quelque chose comme ça, place de l'Opéra, très bien habillé, d'un beau par-dessus couleur mastic, en cachemire. Et je lui demande comment il va, et je croyais qu'il allait me répondre qu'il allait très bien, qu'il était tout heureux. Ah, il me dit non, parce que maintenant, ça fait des mois que je n'arrive plus à écrire un poème engagé. Et il était tout malheureux, le pauvre Louis Masson, parce qu'il ne pouvait plus écrire un poème engagé. Et j'en ai pensé que c'était parce qu'il était poète, justement, qu'il ne pouvait plus écrire un poème engagé.
Perret, d'ailleurs, depuis Mexico, avec André Breton, qui dit que pas un de ses poèmes. Alors là, il faisait allusion à l'honneur des poètes, publié par les éditions de Minuit clandestine en 1943. Ces poèmes, donc de circonstances engagées, ne dépassent pas le niveau lyrique de la publicité pharmaceutique. Il dit « on ne peut pas faire de la guerre un sujet poétique ».
Je pense, moi, qu'ils réglaient entre eux des querelles beaucoup plus anciennes, quand même. Je crois que Breton, Perret, Aragon, c'était quand même leur passé surréaliste. Le fait qu'Aragon les avait quittés, c'était inscrit au parti stalinien. Donc, il y avait cette querelle-là. Mais je pense quand même que, notamment dans les 33 sonnets au secret de Cassou, beaucoup de poèmes d'Aragon. Le poème d'Éluard Liberté, qui est simple, mais justement dans la mesure où il est simple, me paraît quand même très authentique et ne paraît pas simplement un commentaire de l'époque, une publicité ou une contre-publicité de l'époque. Je pense qu'il y a dans le déshonneur des poètes, il y a de l'excès.
Il y a un vrai débat, puisque dans Fontaine, Max-Paul Fouché, dans le numéro de mai-juin 40, questionne des écrivains en leur demandant « est-ce qu'il y aura une poésie de guerre ?» Et André de Richaud répond « n'oubliez pas que c'est pendant la Révolution française qu'on a fait les pièces les plus moches, les tableaux les plus laids et les statues les plus bêtes. En général, on ne fait jamais de la poésie avec de la matière brute, vivante, actuelle. Il reste que le poète peut prendre à la guerre des images, des chocs, mais il ne trouvera que soi-même au centre de tout. Ce ne sera pas là une poésie de guerre, mais une poésie du moi bousculée par la guerre. »
Mais je trouve que André de Richaud écrivait là des choses tout à fait nécessaires et justes. C'est évident.
Écoutez Paris se délivre avec des textes écrits sous l'occupation allemande par Henri Michaud, Raymond Queneau, François Mauriac, Paul Éluard, Louis Aragon, René Séguier, André Fresneau, Guy Lavaux. Paris se délivre.
Le long silence et cette lourde nuit sur l'esprit, il fallait bien enfin que quelque chose les dissipe. Ce long silence et cette lourde nuit, l'esprit se remuait obstinément et rudement sous l'épaisseur de leurs os, partout traqué, mais partout se libérant, partout écrasé, mais partout renaissant, partout étouffé, mais partout à nouveau clamant son éternelle liberté. L'esprit secoue les chaînes dont on affuble, l'esprit secoue cette terre opprimée.
Riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Dandy. Mind the music and the steppin' with the girls be handy.
Il se passe une chose heureuse et très, très importante, c'est qu'en novembre 42, les Alliés débarquent à Alger et libèrent l'Afrique du Nord. La France était coupée en deux, comme disait Aragon. Il y avait la zone dite libre, qui était la zone sud. Limoges était dans cette zone. Alger aussi, de l'autre côté de la Méditerranée. Les Allemands envahissent la France entière, donc toute la France est occupée. Mais nous sommes coupés de l'Afrique du Nord. Plus de nouvelles de Fontaine. Les autres revues, donc Poésie, Confluence, Continue, prospèrent, si vous voulez même. Et personnellement, je souffre de cette absence de Fontaine et me vient même l'idée, au cours de l'année 43, non pas d'essayer de refaire une Fontaine en France occupée, mais de publier au moins un numéro qui sera appelé « Hommage à Fontaine » avec les principaux poètes et auteurs de Fontaine et les réunir. Et juste à ce moment-là, un autre poète jeune qui s'appelait René Lacôte, qui je pense était communiste, m'avait écrit de Paris que je ne devais pas essayer de faire Fontaine en France parce que de deux choses l'une, il était probable que Max Paul avait pu reprendre Fontaine là-bas dans l'Afrique libérée et que donc je serais amené soit à faire un numéro de Fontaine qui serait moins engagé que celui de Max Paul, ce qui serait dommage, et que si jamais au contraire je faisais un numéro aussi engagé que ce que pouvait faire Max Paul là, en Afrique libérée, eh bien mon sort serait évidemment très rapidement liquidé. Alors tout cela m'a fait renoncer à mon projet, et d'autant plus qu'à peu près en même temps, j'ai reçu un jour, par la poste, une lettre avec plein de cachets de censure, une lettre qui venait de Tanger, et c'était une lettre de Georges Blin, qui était un jeune universitaire français de grande valeur, qui m'écrivait de la part de Max Paul pour me demander si je voulais bien essayer de recueillir des textes de nos amis, disait-il, entre guillemets, de les lui envoyer à lui à Tanger, Blin, et que lui les transmettrait à Max Paul. Il ne parlait pas de Fontaine, bien entendu, mais je comprenais donc que c'était là une filière possible, et donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à un peu avant la libération, sans trop savoir si les textes arrivaient ou non. Tiens, je ne vous l'ai pas dit, cela. Pour démarrer mon réseau, si vous voulez, pour la correspondance avec Fontaine, il se trouvait que j'étais en relation depuis 1941 avec tout un groupe de réfugiés de grande valeur qui se trouvait à Saint-Léonard-de-Noblat. Il y avait là donc Queneau qui venait très régulièrement de Paris, et ce groupe autour de Canveller, qui avait été le grand marchand découvreur de Picasso, Michel Léris aussi. Ce qui fait que lorsque j'avais reçu la première lettre de Blin, mon premier réflexe avait été d'aller à Saint-Léonard et de raconter cela à Queneau et à Léris afin qu'ils en parlent autour d'eux. Alors, je me croyais malin et rusé, c'était plutôt naïf de ma part, mais si, j'évitais de poster mes envois de Limoges. Et le dernier envoi que j'ai fait, c'est là où je me croyais malin, ça ne l'était pas. Je l'ai fait de Guéret, c'était les poèmes en guerre que Luard m'avait fait envoyer, signé Jean Duhaut, ces poèmes. Et j'ai fait partir ma lettre de Guéret, parce que Guéret, c'est Chaminadour de Jouandeau, que j'admirais en tant qu'écrivain, mais que je n'aimais guère en tant qu'il était collaborateur. Et il avait fait le voyage, vous savez, en Allemagne, avec Chardon, avec Drieu-Laurochène, etc. Et ça m'amusait de faire partie de la patrie de ce collaborateur Jouandeau, les poèmes d'Éluard.
Maxwell Fouché, vous avez évoqué la figure de Paul Éluard. Oui. Vous avez déjeuné ensemble, je crois, dans un petit restaurant rue de Grenelle.
Oui,
c'était
exactement.
En pleine occupation, au moment où tous ces restaurants étaient occupés par des personnalités allemandes, disons, n'est-ce pas?
C'était extraordinaire, parce que ça frisait quasiment la conscience.
Presque la provocation.
Presque la provocation. Il m'a donné rendez-vous dans ce restaurant. Et j'y suis allé, je suis arrivé le premier. Je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé de rendez-vous, parce qu'autour de nous, on ne parlait qu'allemand, et les gens qui s'y trouvaient étaient probablement les gens de la Gestapo, de je ne sais quel service allemand. Je me faisais petit, parce que j'étais en zone occupée, j'étais venu en mission, et j'avais de faux papiers. Alors, il fallait autant que possible pas attirer l'attention. Et voici qu'Éluard rentre, très olympien, il s'assied, il me dit « Alors, comment ça va en Algérie, à haute voix, et comment vont vos organisations de résistance ?» Je blêmissais, puisque nous étions entourés de gens qui pouvaient parfaitement entendre, n'est-ce pas cela. Pendant tout le déjeuner, il n'a parlé que de cela. Et il avait une serviette avec lui, nous sommes sortis du restaurant, il s'est frappé sur le front, et il a dit oh, « J'ai oublié ma serviette ». Il est reparti, bien sûr, avec moi. Quand nous fûmes dans la rue, il a sorti de sa serviette un paquet de tracts. Il m'a dit, voilà des tracts pour toi, il faudra que tu les distribues à Alger. J'ai eu un serment, n'est-ce pas, de crainte rétrospective en disant, mais mon Dieu, mais c'est de la folie. Si le garçon ou l'un des personnages enfin, qui nous entourait avait la curiosité simplement d'ouvrir cette serviette, nous allons être arrêtés.
Il y a la chute, Max Paul Fouché, car au moment où il vous a quitté, il vous a dit, et surtout, sois bien prudent.
Ah oui, c'est exact. au métro de Sèvres-Babylone, il m'a dit ça. Il ne faisait pas par humour, n'est-ce pas, mais il était tout à fait inconscient. Mais il était sûr de lui. Une espèce de confiance poétique dans la justice, dans le cours de l'histoire. C'est assez extraordinaire. Que je n'ai trouvé que chez lui. Je ne la trouvais pas chez Aragon.
Que voulez-vous ? La porte était gardée. Que voulez-vous ? Nous étions enfermés. Que voulez-vous ? La rue était barrée. Que voulez-vous ? La ville était matée. Que voulez-vous ? Elle était affamée. Que voulez-vous ? Nous étions désarmés. Que voulez-vous ? La nuit était tombée. Que voulez-vous ? Nous nous sommes aimés.
Nous avons lu Paul Éluard pendant 4 ans.
Max Paul Fouché.
Pendant les années sombres. C'est lui qui nous a donné un des poèmes de résistance où nous trouvions la force pour continuer le combat, pour continuer d'espérer. Comment ne pas penser aujourd'hui à Paul Éluard, mais aussi aux écrivains, aux poètes, aux artistes qui ont payé de leur vie, de leur sacrifice pour que nous puissions nous retrouver ce soir. Je pense à Jacques Decour comme à Max Jacob, à Saint-Paul Roux comme à Jean Prévost. Ils ont donné une voix à notre espoir.
Georges-Emmanuel Clancy, en juin 1942, Fontaine publie « J'écris ton nom, Liberté », le fameux poème de Paul Éluard. Alors il y a une question qu'on se pose évidemment, c'est de savoir quel était l'impact de cette poésie de résistance sur la population française.
Bon, mais la population française qui disait son poème savait bien qu'elle était privée de liberté, mais le fait qu'un poète seulement osait lui proclamer son besoin de liberté faisait du bien quand même à celui qui lisait ce poème. Si vous voulez, je crois que les poètes à cette époque-là faisaient sentir au public qui les lisait que tout n'était pas aussi perdu qu'on le leur disait et qu'ils croyaient eux-mêmes le vivre, cette perdition. C'était quand même des îlots d'espoir qui étaient donnés. Il y avait encore des hommes qui n'étaient pas simplement des robots monstrueux.
C'était une revue de combat, de la résistance intellectuelle. Et la preuve en est, c'est que bientôt, elle était doublée par une édition clandestine, sous format miniature, sur papier bible, qui était imprimée à Londres et qui était jetée par les soins de l'aviation anglaise dans les maquis, à l'intérieur des containers, avec les armes, avec les explosifs, avec les médicaments nécessaires aux hommes du maquis.
J'ai des témoignages de jeunes qui ont lu justement les principaux textes et qui sont allés, peut-être à cause de cela, dans le maquis.
Eh bien, René Char était allé en mission en 1944 à Alger, donc à Max Boulfouché, et lui a donné un numéro de Fontaine que Char avait trouvé. Char a été véritablement, lui, un résistant héroïque. Il a été un poète alors plus qu'engagé. Et donc, il a remis à Max Paul un numéro de Fontaine. Un de ces jeunes maquisards avait été pris et fusillé par les Allemands. Et Char, ayant retrouvé la dépouille de ce jeune garçon, qui était un lecteur de Fontaine et qui, donc, avait sur lui un exemplaire de Fontaine taché le malheureux de son sang. Et ça avait beaucoup ému, évidemment, Max Paul.
Dans un numéro d'août 1942 de Fontaine, Henri Hel écrit « De nouvelles revues continuent de paraître, aussi nombreuses que les jours, mais il se crée actuellement une telle inflation poétique que l'on voit mal ce que les jeunes poètes eux-mêmes auront à gagner dans cette générale facilité. » C'est étonnant cette phrase en pleine période de l'occupation. Qu'est-ce qu'elle signifie, Georges-Emmanuel Clancy ? Il faut surtout, en temps de guerre, préserver l'exigence de la qualité. L'arme poétique ne peut être efficace que si elle ne se disperse pas.
Je trouve là que Henriette est bien sévère. Je suis à la fois tenté de lui donner raison et puis mon expérience personnelle, mais plus tard, dans les années qui ont suivi de loin Fontaine, me fait apporter des réserves. Et je regrette beaucoup, notamment actuellement, qu'il n'y ait plus ce qu'il y a eu aussi à l'époque que nous citons et dans les années qui ont suivi surtout la libération, un philosophe de la qualité de Bachelard. Bachelard, qui était un esprit fantastique de valeur, passait son temps à lire, à parcourir toutes les plaquettes de poésie qui paraissaient et que lui envoyaient des poètes, extrayait parfois d'une plaquette qu'on retrouvait peut-être sans intérêt, juste une image poétique ou un vers ou parfois un hémistiche qui faisait que là il y avait une paillette, comme il y a parfois des paillettes dans certaines rivières ou ruisseaux aurifères, qui méritaient le nom de poésie. Je pense qu'il faut qu'il y ait peut-être une profusion, peut-être trop, peut-être un excès, peut-être même de publications plus ou moins belles ou plus ou moins médiocres, pour que tout de même quelque chose de ce bouillon de culture émane des choses absolument essentielles. L'intérêt pour la poésie, alors après la guerre, a duré quelque peu, mais finalement, à partir, disons, de 1947, il y a eu la disparition des trois revues et de l'esprit de résistance, Fontaine, Poésie 47 et Confluence. C'est vrai qu'il y a la guerre froide à ce moment-là qui s'instaure, et qui, avec un climat bien particulier. Et puis il y a aussi la redécouverte des auteurs américains, du cinéma américain. Et peu à peu, le territoire, si vous voulez, public, la poésie reste, se met à devenir une peau de chagrin. Désert, noir, jaillit des moissons arrachées, un désert. Miettes d'ombre, glaneurs aveugles du désert, ils vont, rêvant leur village, heurtant le désert. Rêvant leurs amours et les arbres et la terre, ils tâtonnent. S'ils allaient oublier leur terre, s'ils allaient perdre avec la paix leur sang de terre, ou devant d'eux, froissement d'astres morts, la guerre. Ils touchent de leurs lèvres tremblantes la guerre, et de leurs larmes où se fonde cette guerre et le tendre savoir paysan de la chair. Commence la nuit déboisée de votre chair. Pour Jean Blanza.
Et ce poème, Georges-Emmanuel, de quelle année il date, vous vous souvenez?
Peut-être, je pense, dans l'automne 39. Il était sur le front de Front des Vosges, me semble-t-il, oui.
C'est une manière entre poètes de dire qu'on pense à l'autre.
Oui, je le pensais, je le sentais comme ça. Enfin, j'admirais beaucoup Blanza et je le trouvais comme un grand frère et je le sentais tellement menacé de mort et en même temps je me sentais comme un peu coupable de ne pas être avec lui dans le même danger. C'est vrai.
La poésie, Georges-Emmanuel Clancier, doit toujours aujourd'hui tenir sa promesse que quelque chose de plus humain se prépare.
Plus que jamais, il faudrait que les poètes fassent entendre leurs poèmes, mais fassent entendre aussi, comme faisait Max Paul et comme faisaient les amis de Max Paul, la nécessité pour l'homme de retrouver le chemin de l'humain.
Et pourtant, Georges-Emmanuel Clancier, vous avez cessé, il y a peu de temps, d'écrire de la poésie.
Oui, mais j'ai cessé mais par exigence, j'ai attendu plus longtemps que Rimbaud. Oui, c'est vrai, mon dernier recueil a été, et je crois, mon dernier recueil dans tous les sens du terme, c'est « Vive fut l'aventure ». J'ai pensé que là, j'étais venu, que la poésie me paraissant, moi, tout de même liée à une sorte de jeunesse intérieure, je ne voulais pas courir le risque de, croyant faire de la poésie, je ne fasse que de simulacres de poésie. Hein. Et c'est pour ça que je préfère m'arrêter sur les poèmes de Vive fut l'aventure.
«
C'était Fontaine, une source de la résistance poétique, avec Georges-Emmanuel Clancier. Archivina, Anne-Laure Veil. Mixage, Catherine Dereté. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Séverine Cassard.
Comme toutes les autres émissions de La Fabrique de l'Histoire, eh bien vous pouvez réécouter cette émission pendant 500 jours sur le site www.franceculture.fr, la télécharger pendant une semaine, laissez vos commentaires, n'hésitez pas, sur le site franceculture.fr, mais également sur le groupe des amis de La Fabrique de l'Histoire sur un réseau social bien connu. Hier, c'était Adonis, aujourd'hui on a parlé de la revue Fontaine, et demain, nous rediffuserons un documentaire déjà diffusé l'année dernière sur le formidable poète qui était Armand Robin, décédé en 1961.